Vous écoutez, on lit pour vous.
La population du Québec diminue, une rareté dans les 70 dernières années. Un texte de Sarah R. Champagne, paru le 18 juin 2025 dans Le Devoir. La taille de la population du Québec a diminué pour la cinquième fois seulement depuis 1951, au cours du deuxième trimestre de 2025. La baisse est faible, soit 1013 personnes de moins, et survient alors que les restrictions gouvernementales ont fait diminuer l'immigration temporaire selon les données publiées par Statistique Canada. Suivant une tendance déjà amorcée à la fin de 2024, le nombre de résidents non permanents a également diminué globalement au Canada, mais moins vite au Québec. La province comptait ainsi 612 393 immigrants temporaires au 1er avril 2025, soit 4159, moins 0,67% de moins qu'au trimestre précédent. La baisse pour le Canada en entier se chiffre à 61 000 pour la même période, soit moins 2 %. La baisse de la population totale, immigrants et citoyens, s'est aussi observée à Terre-Neuve-et-Labrador, en Ontario, en Colombie-Britannique et au Yukon, souligne l'entité fédérale par communiqué. Ces baisses demeurent faibles par rapport à la taille de chaque province, écrit Statistique Canada. Plus de décès que de naissances. Au Québec, cette perte mesurée pour un trimestre se classe au cinquième rang en importance parmi celles survenues en 70 ans depuis que des données comparables existent. La première étant en 1970, quand la province avait perdu 4 000 personnes. La population provinciale ne croît désormais que par l'immigration. Le point de bascule de l'accroissement naturel est arrivé plus vite que prévu dans la belle province. L'Institut de la statistique du Québec, ISQ, prévoyait en octobre dernier que les décès dépasseraient les naissances seulement à partir de 2027. Ce qui s'est en fait déjà produit, a-t-on appris quelques mois plus tard. Il y a eu 2500 décès de plus que de naissances en 2024. L'immigration temporaire responsable? C'est au contraire l'Alberta qui a gagné le plus en population au début 2025, mais son taux de croissance démographique, 0,4%, demeure faible par rapport à la moyenne canadienne des 15 dernières années, 0,9%. C'est le nombre d'étudiants étrangers qui diminue pour la première fois en près de 3 ans, avec 7500 détenteurs de permis d'études de moins. À l'échelle du pays, c'est aussi dans cette catégorie que le plus fort recul se ressent, surtout en Ontario et en Colombie-Britannique, les deux provinces qui comptent le plus grand nombre de titulaires de permis d'études. La baisse est moins forte du côté des détenteurs de permis de travail au Québec, avec tout juste 750 travailleurs étrangers de moins. Cette large catégorie comprend notamment les participants au programme de mobilité internationale que le gouvernement de François Legault souhaiterait voir se réduire, dont des diplômés ou des conjoints de travailleurs qualifiés. Quant aux demandeurs d'asile, leur nombre a augmenté pour un 13e trimestre consécutif, mais pas aussi vite qu'auparavant. Au Québec, on compte maintenant 185 742 personnes dans cette catégorie. Cette donnée ainsi que compilé par Statistique Canada, comprend à la fois des demandeurs d'asile en attente de décision, mais aussi environ 40 000 personnes protégées qui ont déjà été acceptées par Ottawa. Ce sont ainsi plus de 20 % des personnes comptées dans la catégorie « demandeurs d'asile » qui pourraient théoriquement devenir permanentes, mais Québec a une cible de 3 400 par année. Mécontentement. Les resserrements sur l'immigration temporaire, mis en place depuis l'automne dernier par Québec et Ottawa, ne font cependant pas l'unanimité. La Chambre de commerce de Montréal, Centre-Sud-Ouest, CCCSOM, et la Fédération des chambres de commerce du Québec, FCCQ, ont uni leurs voix pour réclamer à nouveau un moratoire immédiat sur les restrictions. Le gouvernement caquiste semble aussi miser sur une baisse des seuils de l'immigration permanente selon les scénarios qu'il a récemment dévoilés. Deux diminutions combinées qui sont qualifiées de contre-productives par la CCSOM et la FCCQ. Des entreprises, dont celle du secteur touristique, perdent déjà des travailleurs étrangers temporaires. Ce sont 64 % des entreprises qui ont répondu à un sondage récent de la FCCQ qui indique devoir refuser des contrats, réduire leur production ou fermer un quart de travail si leurs travailleurs étrangers temporaires, TET, actuellement au travail, devaient partir. Les établissements d'enseignement ont aussi fait part à répétition de leurs inquiétudes, notamment pour leur santé financière, quant au plafonnement du nombre d'étudiants étrangers. De leur côté, les organisations de soutien aux immigrants ont dit craindre que les restrictions créent une vague de personnes sans statut. Québec est la seule province qui a fermé la porte à un programme pour les travailleurs de la construction sans statut. Ottawa estime que 500 000 personnes sans papiers vivent au Canada, dont des enfants. C'était « La population du Québec diminue, une rareté dans les 70 dernières années », un texte de Sarah R. Champagne, paru le 18 juin 2025 dans Le Devoir.
Comment des organisations sionistes créent un climat de peur dans les cégeps? Un texte de Léa Beaulieu-Kratchanov, paru le 22 mai 2025 dans Pivot. Pivot s'est entretenu avec des enseignants et enseignantes qui travaillent dans les cégeps anglophones de Montréal, notamment les collèges Vanier et Dawson, où la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Derry, a déclenché des enquêtes administratives. Selon ses profs, cette forme d'ingérence et l'intervention de la ministre dans deux cours portant sur la Palestine ne sont que l'aboutissement d'une bataille que mènent depuis longtemps des organisations sionistes au sein des institutions académiques contre l'enseignement en lien avec la Palestine. Citation : Il faut savoir qu'à Vanier, il y a 2 ans, soit la première fois en 14 ans où j'ai dit le mot Palestine, comme on dit en arabe, le ciel est descendu sur la terre. Fin de citation, relate Leila Abder, qui enseigne au collège depuis plusieurs années. Tout a basculé. C'était en mars 2023, avant Gaza, avant le 7 octobre. À l'occasion de la Semaine internationale des femmes, la professeure organisait une conférence mettant en vedette la chercheuse féministe d'origine palestinienne, Nada Elia. Cela aurait provoqué un branle-bas de combat chez certains et certaines membres du personnel. L'affaire est relatée dans un mémoire soumis à l'été 2024 au Comité parlementaire fédéral sur l'antisémitisme, signé par une enseignante du collège accusant la conférencière d'être une sympathisante du Hamas. L'auteur dénonce le fait qu'après avoir initialement refusé d'approuver l'événement, l'administration du collège Vanier a par la suite permis sa tenue suite aux protestations de nombreux enseignants et enseignantes. Leïla Abder ne se doutait pas que, deux ans plus tard, elle recevrait un courriel du ministère de l'Enseignement supérieur lui demandant de se présenter pour un entretien dans le cadre d'une enquête administrative déclenchée par la ministre québécoise de l'Enseignement supérieur, Pascale Derry, en décembre 2024. La mesure, visant à savoir si les collèges Vanier et Dawson avaient fait le nécessaire pour assurer la sécurité des étudiants et étudiantes dans un contexte de climat tendu depuis le 7 octobre 2023, a été vivement dénoncée par le corps professoral, comme l'a notamment rapporté la presse. Or, pour des enseignants et enseignantes avec qui s'est entretenu Pivot, ces enquêtes sont l'aboutissement de pressions durables et soutenues menées par des lobbies pro-Israël dans les cégeps anglophones de Montréal. Citation. « Ça semble être l'aboutissement d'une escalade », fin de citation, avance Leïla Abder. Elle explique que des collègues enseignants et enseignantes ainsi que des étudiants et étudiantes se sont d'abord opposés à des événements en lien avec la Palestine. S'en sont suivies des menaces légales et des pressions d'organisations sionistes, dont CIJA et la Fédération CJA. Citation. Après l'échec de ces tentatives de censure, le ministère s'en est mêlé. Fin de citation. En décembre 2024, le Centre consultatif des relations juives et israéliennes, CIJA, un lobby sioniste dont la ministre Derry a été membre du conseil d'administration, ainsi qu'un organisme qui le finance, la Fédération CJA, s'étaient félicités sur X d'avoir été à l'origine des démarches du ministère. En avril 2025, Pivot avait dévoilé l'existence d'une correspondance entre la ministre Derry et CIJA, malgré que le ministère ait refusé de dévoiler la nature des échanges. Au Collège Vanier, RIM, non fictif, a donné en 2024 deux cours portant sur la Palestine, l'un au semestre d'hiver, puis un autre à l'automne. C'est au sujet de ce dernier que la ministre Derry a questionné l'administration du collège, un geste mis en lumière par la presse, et qui a depuis été qualifié d'ingérence contraire à la liberté académique et qui a mené des centaines d'enseignants et enseignantes à réclamer la démission de la ministre. Mais même avant cela, le premier cours donné par RIM avait fait l'objet d'une mise en demeure de la part de cinq étudiants et étudiantes non identifiés et représentés par Maître Neil Oberman, avocat et ex-candidat pour le Parti conservateur, qui mène fréquemment des recours contre le mouvement pro-Palestine à Montréal. Le document, obtenu par Pivot et qui a également été envoyé au ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, montre que cinq étudiants et étudiantes demeurant anonymes accusaient le contenu du cours d'être, citation, « répréhensible, haineux et susceptible de les exposer à la haine et l'agression ». Fin de citation. Yel demandait à s'en désinscrire, ce que leur a par la suite permis l'administration du collège dans un courriel qu'a pu consulter Pivot. Cependant, dans sa réponse, Neil Oberman a insisté, demandant tout de même à savoir ce qu'il adviendrait du contenu du cours. Par ailleurs, selon des informations d'abord révélées par Radio-Canada, l'avocat a aussi réclamé à la ministre Derry la tenue d'une enquête au Collège Dawson en juin 2024, soit après l'envoi de la mise en demeure contre le cours à Vanier. Selon les enseignants et enseignantes qui se sont confiés à Pivot, cela mettrait en lumière la véritable intention de la démarche judiciaire contre le cours donné à Vanier, qui n'aurait pas vraiment visé à accommoder quelques étudiants et étudiantes pouvant être inconfortables vis-à-vis de son contenu. Ce qui poserait problème, ce serait plutôt le fait même que le cours existe. Ainsi que l'avait révélé la presse, le semestre suivant, à l'automne 2024, CIJA aurait demandé à rencontrer l'administration du Collège Vanier afin de s'enquérir du second cours enseigné par RIM. Durant la rencontre, l'organisme aurait remis en question la légitimité du cours, mais l'administration aurait défendu l'enseignante, toujours selon les enseignants et enseignantes qui ont parlé à Pivot. Peu de temps après, le ministère aurait directement contacté l'administration au même sujet. Vous écoutez « Comment des organisations sionistes créent un climat de peur dans les cégeps », un texte de Léa Beaulieu-Kratchanov, paru le 22 mai 2025 dans Pivot. Pression étudiante. Au collège John Abbott, l'enseignante Claire Russell a également entrepris d'enseigner un cours sur la littérature palestinienne à l'hiver 2024. Citation. Dès que le calendrier des cours a été publié, j'ai reçu un courriel d'un étudiant qui demandait à voir le plan de cours et qui se disait très intéressé. Fin de citation, relate l'enseignante. Elle apprendra plus tard que l'étudiant n'est pas éligible et qu'il est un membre exécutif de Hillel, un club destiné aux étudiants et étudiantes de confession juive, chapeauté par l'organisme sioniste du même nom, qui est lui-même financé par la fédération CJA, tout comme CIJA. Citation. Je n'ai pas eu de nouvelles jusqu'à ce que ma directrice des études m'appelle pour me dire qu'il y avait des plaintes concernant certaines phrases dans le plan de cours. Fin de citation, relate-t-elle. Claire Russell affirme, ainsi qu'elle l'avait initialement rapporté à la presse, que la directrice lui a assuré qu'elle n'était pas obligée de faire des modifications, mais que considérant les enquêtes en cours à Dawson et à Vanier, il vaudrait peut-être mieux retirer quelques lignes. Ce à quoi Claire Russell a acquiescé. Les choses se sont aussi compliquées dans l'autre cours de littérature qu'elle enseignait et qui ne portait pas sur la Palestine. Dès la première séance, l'enseignante aurait été approchée par une étudiante qui se serait dite membre exécutive de Hillel. Elle lui aurait annoncé que trois autres étudiants qui assistaient au cours faisaient également partie du club. Voulant rassurer et établir un lien de confiance avec ses étudiants et étudiantes, l'enseignante affirme avoir pris contact avec elle et eux par courriel. Mais peu de temps après, elle aurait reçu un avis de plainte. Citation. Sur la base de cet email, l'un d'entre eux a déposé une plainte pour antisémitisme contre moi pour avoir fait des suppositions sur son identité. Fin de citation. Se désole Claire Russell. Au moment de déposer la plainte, l'étudiant aurait également demandé de faire annuler l'autre cours donné par l'enseignante, portant sur la Palestine, auquel il n'était pourtant même pas inscrit. Citation. « C'était très clair qu'il suivait mon cours pour garder un œil sur moi », avance Claire Russell. « Mais j'ai moins de protection institutionnelle en raison des enquêtes à Dawson et Vanier. » Fin de citation. Citation. « Ce qu'on voit, c'est que derrière ces étudiants-là, il y a une forte pression de l'extérieur du collège pour dénoncer ou pour intervenir dans des contenus de cours. » Fin de citation, analyse Anna, nom fictif, qui enseigne également un cours de français sur la littérature palestinienne à Dawson. La ministre Derry a également questionné l'administration du collège quant au choix de ce sujet. Quel climat de peur! Pour les enseignants et enseignantes à qui nous avons parlé, il est difficile aussi de comprendre pourquoi la ministre Pascale Derry s'inquiète particulièrement de la situation au collège Dawson et Vanier, où les actions étudiantes en lien avec la Palestine sont généralement peu fréquentes. Citation. Il y a des manifestations étudiantes en soutien à la Palestine partout, mais Dawson et Vanier sont les deux seuls campus qui sont sous enquête. Fin de citation, relève Leila Bder. Vanier n'avait, par exemple, pas participé au mouvement de grève l'automne dernier, alors que des milliers d'étudiants et étudiantes dans les cégeps et les universités de la province débrayaient pour la Palestine. Citation. Alors, quelles sont les actions en lien avec la Palestine? Fin de citation, demande Rim. Citation. Ce sont les professeurs qui les mènent. Ultimement, ce sont les professeurs qui ont enseigné et qui ont parlé de la Palestine. Fin de citation. Citation. Avant même que l'enquête ait lieu, il y a beaucoup de gens qui ont été choqués par son annonce et qui vivaient très mal l'attente de ce qui allait se passer, de qui allait être convoqué, pourquoi, sur quelle base. Ça a créé beaucoup de stress, de gens qui se sentent peut-être épiés, surveillés alors qu'ils n'ont rien fait à part leur boulot de prof. Fin de citation, s'indigne Anna. Ça a créé un climat délétère. Pendant son entretien, les enquêtrices du ministère de l'Enseignement supérieur auraient demandé à Leïla Bder si l'enquête avait eu un impact sur le climat à l'école. Évidemment, citation, ça crée une méfiance, on se sent insécure, on ne sait pas si on nous enregistre dans les classes ou dans les rencontres. Fin de citation, a-t-elle répondu. Depuis le début de l'enquête, certaines enseignants et enseignantes ont pris l'habitude de s'enregistrer lorsqu'elles abordent la Palestine. Citation, je comprends pourquoi des profs sont tentés de faire ça. Fin de citation, avance Leïla Bder. Citation, ça permet de garder des traces de ce qu'on a dit advenant que des étudiants et étudiantes nous accusent de tenir des propos antisémites. Fin de citation, explique Leïla Bder. Citation, il y a un refus d'admettre qu'il s'agit de pédagogie. On dépeint constamment nos cours comme de l'activisme et on essaie de miner notre crédibilité en tant que professeur. Fin de citation. Citation, les motifs invoqués pour justifier le déclenchement de l'enquête sous-entendent que les étudiants juifs ne seraient pas en sécurité dans nos classes. Fin de citation, s'indigne Leïla Bder. Citation, nous ne sommes pas dangereux pour ces étudiants juifs, ce n'est pas vrai. Notre philosophie d'enseignement est basée sur la bienveillance vis-à-vis de tous nos étudiants, qu'ils soient d'accord avec nous ou non, et ça par rapport à n'importe quel sujet. Fin de citation. Tangente dangereuse. Citation, on a peur que ça crée des précédents. Fin de citation, s'inquiète Dominique Sauvé, enseignante en physiothérapie au Cégep Montmorency et responsable information et mobilisation au syndicat des enseignants et enseignantes de son collège. Citation, avec quelques plaintes qui viennent de l'extérieur, avec des bons contacts, on est capable de déclencher quelque chose de massif avec des personnes qui ont un pouvoir extrême de fouiller là où ils veulent. Fin de citation. Si les autres cégeps ne font pas l'objet d'enquête, citation, l'effet dissuasif, il est là, affirme-t-elle. Les enseignants se questionnent quand même à savoir s'ils abordent les enjeux de la Palestine. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que je présente cet auteur-là? Fin de citation. Citation, tout ça remet beaucoup en question l'autonomie administrative des cégeps, estime-t-elle. On remet aussi en question l'autonomie pédagogique des départements qui vont évaluer les plans de cours et le contenu des cours en regroupant les enseignants qui sont experts sur la matière. Fin de citation. Cela empiète tout autant sur l'indépendance des professeurs qui, en vertu de la loi, doivent jouir d'une liberté académique sur les constructions des cours qu'ils et elles enseignent, pense Dominique Sauvé. Ce qui est sous-entendu, à la fois par le processus d'enquête et par les plaintes vis-à-vis des cours sur la Palestine, citation, c'est qu'il n'y a pas de rigueur, qu'il n'y a pas de substance, que c'est juste de l'activisme. Ce n'est pas vrai. Fin de citation, dénonce RIM. Citation, la liberté académique, c'est le droit de penser et de travailler de manière créative, sans ingérence extérieure. On a le droit de concevoir un cours qui soit un bon cours. Fin de citation. Citation, je ne doute pas que pour des étudiants juifs qui font partie de communautés très sionistes, c'est très difficile pour eux. Fin de citation, explique Leïla Bder. Mais, citation, si dans l'enseignement supérieur, on ne peut pas aborder les sujets qui sont polarisants, où est-ce qu'on va le faire? Avec des gens qui ont des connaissances et sans tomber dans la désinformation? Fin de citation, demande Dominique Sauvé. Le ministère de l'Enseignement supérieur a refusé de répondre à nos questions. CIJA n'a pas fait suite à nos demandes répétées. C'était « Comment des organisations sionistes créent un climat de peur dans les cégeps? » Un texte de Léa Beaulieu-Kratchanov, paru le 22 mai 2025 dans Pivot.
Il y a 50 ans, Jean Dupéy est né, un texte de Félix B. Desfossé, paru le 23 juin 2025 dans Le Devoir. Il y a 50 ans, le Québec voyait naître Jean du Pays, son hymne national officieux, dans le cadre des célébrations de la Saint-Jean-Baptiste sur le Mont-Royal. À la même occasion, Ginette Renaud se livrait tout entière à l'interprétation de « Un peu plus loin » de Jean-Pierre Ferland, un moment qui allait profondément marquer sa carrière. Avec ces deux arbres qui cachent la forêt, notre mémoire collective aurait-elle oublié certains faits survenus lors de ces cinq soirées de fête du 20 au 24 juin 1975? Puisque 1975 avait été décrétée année de la femme par l'ONU, c'est l'animatrice féministe Lise Payette, très populaire grâce à son émission « Appelez-moi Lise » à Radio-Canada, qui est nommée présidente des fêtes de la Saint-Jean-Baptiste. Avec son équipe, elle fait installer une immense scène sur le sommet du Mont-Royal, aux abords du lac aux Castors. C'est là que ça va se passer. Mais pas juste là. Dans l'édition du 11 juin 1975 du Devoir, on peut lire, sous la plume d'Angèle Dagenais, que plus de 500 artistes professionnels, auteurs-compositeurs, comédiens, danseurs, groupes pop et musiciens, se produiront beau temps, mauvais temps, de 11h du matin à 3h le lendemain matin, sur 8 scènes aménagées pour l'occasion. Grosse commande. Jean du Pays. Les célébrations débutent le vendredi 20 juin 1975, en après-midi, avec la présence de nombreux violonneux sur différentes scènes. Le soir venu, c'est le spectacle intitulé « Happy Birthday » qui se déroule sur la scène principale. Ce titre volontairement provocateur, c'est Yvon Deschamps qui l'a trouvé. Lise Payette lui avait confié la mission, ainsi qu'à Louise Forestier et à Gilles Vigneault, de donner le coup d'envoi de la fête. Mis au défi par Louise et Yvon de créer une chanson d'anniversaire pour le peuple québécois, Vigneault écrit « Jean du Pays ». Sur scène, il apprend les paroles aux 150 000 spectateurs dans un moment de magie nationaliste qui demeurera gravé dans les mémoires québécoises. Le spectacle est diffusé en direct à la télé de Radio-Canada, ce qui permet aussi aux téléspectateurs d'apprendre la chanson. Jean du Pays sera ensuite récupéré par bien des familles afin d'en faire un air d'anniversaire. Une fois ce spectacle terminé, les groupes Octobre et Nébu, tiens, l'histoire les avait oubliés, ceux-là, se produisent sur d'autres scènes jusqu'aux petites heures. Ce sera aussi la première nuit de bien des campeurs qui dorment sur le Mont-Royal à l'invitation de l'organisation. Au lendemain de ce premier soir de fête, Le Devoir titre en une « La Saint-Jean ». C'est notre tour de nous laisser parler d'amour. La chanson de Vigneault a fait son effet. D'ailleurs, dès 1977, Pierre Bourgault suggère, lors de conférences, que Jean du Pays devienne un jour l'hymne national du Québec, à en croire les propos rapportés par le quotidien du Saguenay-Lac-Saint-Jean en décembre cette année-là. Ironiquement, René Lévesque l'entonnera plutôt à la suite de son fameux « À la prochaine fois » en guise de chant d'espoir, le soir de la défaite référendaire du 20 mai 1980. Le spectacle pop. Le samedi 21 juin 1975, c'est une fête familiale qui se déroule en après-midi, dont la tête d'affiche est nulle autre que le petit Simard en personne, René de son prénom, alors au sommet de sa popularité. Le Devoir placera même une photo de sa performance en première page du journal le lendemain. Au crépuscule, c'est le spectacle pop qui est présenté sur la scène du lac au Castor devant 300 000 personnes. Au menu, Harmonium, les Séguins et Gilles Valiquette, mais aussi le groupe « Autre chose » du regretté Lucien Francoeur. Et selon ses souvenirs récoltés en 2022, son groupe rock détonnait. C'était évident que le monde qui était en avant n'aimait pas notre musique. On se faisait huer parce qu'on jouait tough, fort. Puis, il y avait assez de monde là que d'autres ont commencé à crier pour nous autres. Et on s'en est bien tiré, racontait le rocker sanctifié. De son côté, Gilles Valiquette dit garder un souvenir bien vivant de l'événement qui, pour lui, était un summum. Un peu comme sur les photos que l'on voit de Woodstock. Quand je suis monté sur scène, je pouvais voir des têtes jusqu'au bout de l'horizon. C'était impressionnant, se remémore-t-il. Il se désole toutefois que Radio-Canada n'ait pas diffusé le show, tout comme il regrette la guitare sèche qui lui a été volée ce soir-là. J'ai dû jouer mes chansons acoustiques à la guitare électrique, raconte-t-il. Ce n'était pas évident. Manifestement, ça brassait sur la montagne. Journaliste au Devoir, Guy Deshaies le soulignait ainsi. Il y a certes ceux qui se jettent dans le lac au Castor, ceux qui abusent de la bière et de la mescaline, ceux qui arrivent à danser sur l'herbe, ceux qui se font un concert maison près d'un feu de gobelets, et les gars et les filles qui se disent « bonne fête ». On ne peut plus intimement dans les buissons. Accalmie. Le dimanche 22 juin 1975, jour du Seigneur, on calme le jeu. Il y a une messe à l'Oratoire Saint-Joseph en matinée et c'est l'Orchestre symphonique de Montréal qui donne un concert sur la scène principale en soirée. Le lundi 23 juin 1975, l'orientation féministe des célébrations commence à se faire sentir. Clémence Desrochers, Angèle Arsenault et Fabienne Thibault se produisent en après-midi. Comble d'ironie, c'est aussi cette journée qui est choisie pour présenter le spectacle « Les charmeurs de ces dames » en après-midi, qui rassemble des idoles comme Fernand Gignac et Michel Louvain. En soirée, c'est enfin le spectacle de « L'année de la femme » qui est présenté, intitulé « Ça se pourrait-tu ?» Mis en scène par Mouff, 14 femmes y prennent part, dont Pauline Julien, René Claude et même Rose Lapounouellette. Le spectacle est enregistré et diffusé le lendemain à la télé publique. Pour finir la soirée, Offenbach fait trembler la montagne. Un peu plus loin, le 24 juin 1975, les célébrations culminent avec un grand spectacle qui s'intitule « Que sont devenues les femmes ?» Et bien que l'événement rassemble bel et bien des artistes féminines, c'est plutôt d'un hommage à Jean-Pierre Ferland, c'est son 41e anniversaire ce soir-là, dont il est question. Les femmes qui y sont invitées interprètent des chansons de Ferland en sa présence. L'événement est présenté en direct à la télévision de Radio-Canada. Récemment revenue des États-Unis, Ginette Reno est invitée à prendre part au spectacle et, après avoir négocié pour obtenir la faveur d'interpréter un peu plus loin, elle donne ce soir-là l'une des plus intenses et importantes prestations de sa carrière. De chanteuse populaire, elle devient une chanteuse rassembleuse, puissante, inspirante. Et pour terminer la soirée, qui se produira sur une plus petite scène? C'est le fou sympathique batteur Guy Nadon, avec son groupe La Pollution des Sons. À l'issue de ces 5 jours et 5 nuits de festivités, on calcule que 1,25 million de personnes ont gravi la montagne. C'est un succès sur toute la ligne. L'expérience est reprise en 1976, puis en 1977. La Saint-Jean-Baptiste devient officiellement la fête nationale du Québec. C'était, il y a 50 ans, « Jean du pays est né », un texte de Félix B. Desfossé, paru le 23 juin 2025 dans Le Devoir.
Michel A. Bouchard, Éloge de la mouvance. Un texte d'Isabelle Beaulieu, paru le 21 octobre 2024 dans les libraires. Il comptabilise tout, ou en tout cas beaucoup. Les pas qui le mènent d'un point à l'autre, le nombre d'étages qu'il gravite, les gens qui entrent et descendent de l'autobus, les numéros reçus de la distributrice dans les aires d'attente. Il consigne dans un fichier les données récoltées afin d'en tirer des conclusions qui ne lui serviront pas, surtout pas, car dans son livre « Les actes inutiles », Michel A. Bouchard, scientifique, enseignant de profession et philosophe dans l'âme, nous révèle l'ultime allégresse qu'il y a à s'émerveiller de choses vaines et totalement superflues. Nous sommes dans une société utilitariste. Cela est essentiel à notre survie. Pour se nourrir, s'abriter, se vêtir, il faut s'organiser et exécuter une certaine production afin de pourvoir à tout cela. Mais notre ère semble particulièrement exercer une forte pression sur les individus en matière de rendement. Maximiser son temps, avec un souci toujours plus grand d'efficacité et de réactivité, paraît être la devise de notre époque. Bref, l'inutile n'est pas à la mode, il est même très inactuel. Pourtant, Michel A. Bouchard en fait l'apologie. J'ai longuement réfléchi. Est-ce qu'il y a des choses inutiles qui sont néanmoins nécessaires? Se demande l'auteur. Utilité et besoin sont deux choses différentes. Et ce qu'il appelle la conscience désintéressée de ce qui nous entoure a soif d'heures oisives et de responsabilités allégées, non pas pour nous laisser dans une existence de vacuité, mais pour justement la remplir de tout ce que l'on se permet d'approcher quand le temps n'est tenu à rien. Lorsque la tête est libre, il n'est plus assujetti au devoir. Les sens sont plus alertes, et quand l'intérêt est délesté de l'obligation de résultat, l'attention s'affranchit, se mettant en posture de réception, s'adonnant à l'étonnement. Dans ce détachement des impératifs s'opère un état d'abandon béni pour quiconque aspire à la plénitude de l'esprit. Vu sous cet angle, les actes inutiles sont les plus entiers parce qu'ils se suffisent en eux-mêmes et ne sont aliénés à aucune cause ou conséquence. Tout remue, évolue, se transforme. Ne reste qu'à se laisser porter par le fruit du hasard qui, pour l'essayiste, fait en quelque sorte souvent bien les choses. Le hasard est ce qu'il est. Il est heureusement imprévisible, imprévisible mais fiable. Il est toujours là. On ne sait jamais quand et sous quelle forme l'imprévu s'exprimera, mais on peut être assuré qu'il viendra nous surprendre. Au moment même où nous discutions de l'inattendu par l'entremise d'une visioconférence, Michel A. Bouchard et moi perdons le contact virtuel, la réalité ayant cru bon de nous fournir un exemple d'impondérabilité. Comme on pouvait s'y attendre, cela fait rire Bouchard de bon cœur. Plusieurs s'essaient à contourner les aléas, mais le mieux, selon l'auteur, est d'apprivoiser les situations au lieu de s'acharner à les changer, d'entrevoir le charme qu'il y a dans cette variété inopinée du fortuit. À l'instar de l'autrice Marie-Claire Blais qui écrivait « N'est-ce pas la curiosité qui nous retient à la vie ?» Michel A. Bouchard carbure cet appétit de l'observation. C'est tout à fait ça. Je le fais d'une façon très primitive, en chiffrant, en quantifiant, explique le géologue. C'est une façon d'être sensible, d'être éveillé à la majesté de ce qu'il y a autour de nous, malheureusement, parfois à la misère aussi. C'est en tout cas une lucidité, une vigilance de l'instant et un enthousiasme pour tout ce qui est, bouge, vit et se transforme constamment. Le fait de consigner, de noter une donnée ou une information, relève d'une volonté proprement humaine de pérennité ou de recherche de sens. Un souhait d'établir des liens, de s'inscrire dans le continuum, d'apprendre à vivre, de fixer ce qui nous glisse des mains sans arrêt. Pas pour contraindre le mouvement, ce qui serait chimérique, mais pour saisir l'histoire qui compose chaque manifestation. D'ailleurs, le monde s'est construit et continue de le faire sur ses accumulations de connaissances. Même celles qui, en apparence, relèvent de la futilité, disent beaucoup de nos façons de voir, de penser et d'être. Je suis devenu convaincu qu'il n'y a de constant que le changement, et que c'est dans la nature même des choses d'avoir une histoire, parce que chaque chose est issue d'un changement. Et qu'elle deviendra quelque chose d'autre, par suite d'autres changements. Inspiré par le philosophe Henri Bergson, Bouchard constate et accepte ce rythme ondulant et ses métamorphoses perpétuelles. La narrativité d'une roche. Ce qui prend les atours de l'insignifiant se revêt d'une étrange beauté, laquelle est difficile à identifier. Elle n'est certes pas utilitaire en soi, mais comme elle procure un certain plaisir, elle devient utile par le seul fait qu'elle apporte du contentement et répond à notre vœu de joie. On ne sait pas ce qui est beau, on le ressent, dit l'environnementaliste. Il est fasciné par le fait que chaque élément sur Terre, entendons par élément l'humain, l'animal, le végétal, le minéral, etc., possède une histoire, même un caillou, puisque son récit témoigne de ses pérégrinations. Toujours, tout le temps, partout, une modification est à l'œuvre. Ce constat est à la fois doté d'un grand pouvoir d'espérance, mais également d'un incommensurable vertige. Nous nous trouvons, à la manière de plaques tectoniques, au milieu d'une dérive infinie, à la merci, en somme, d'un grand tourbillon. Ce fameux hasard que nous évoquions provoque chez plusieurs une forte angoisse, ayant l'impression que tout contrôle leur échappe. Une bonne part d'entre nous, la plus grande sans doute, tente de contrôler les choses et d'avoir une emprise sur ce qui advient. C'est la définition du malheur, affirme le scientifique pour qui le hasard n'est pas à craindre. Il faut savoir vivre avec l'éphémère des choses, qui est une composante du hasard, mais cela ne signifie pas de s'abandonner à tout. On garde la responsabilité de son bonheur, quand même. Ni tout l'un, ni tout l'autre, c'est probablement ce à quoi il faut aspirer. À un certain équilibre entre ce qui nous arrive et ce que l'on en fait. D'après le scientifique, la vie, malgré les extinctions, continuera toujours d'une manière ou d'une autre, même si l'humain a la propension de croire que sans lui, c'est la fin du monde. Il a également une tendance lourde à modeler la nature à sa main. L'être humain n'a pas le choix et il n'a pas à s'excuser d'utiliser les ressources de la Terre ou de les exploiter. C'est son destin de l'occuper et d'en prendre possession. C'est son sort, soutient l'auteur. Maintenant, il a l'obligation de le faire intelligemment. Il faut s'adapter à la planète et non pas lui demander de s'adapter à nous. L'humain agissant en maître ne fait que se placer lui-même sur la corde raide, car il met à mal ce dont il a besoin. Afin de l'éclairer dans les gestes à adopter, Bouchard encourage la fréquentation des philosophes. Il mentionne Jean-Jacques Rousseau et l'avantage que nous aurions à réhabiliter son contrat social. Il dit que le bien commun doit parfois prévaloir sur le bien privé et l'un et l'autre ne sont pas à condamner. Ils doivent coexister. Et je pense que les philosophes seraient probablement les mieux à même pour nous dire comment. Décloisonner nos œillères comme nos territoires serait déjà un bon début, selon Michel A. Bouchard. On doit aller chercher une perspective plus vaste, élargir notre vue, préfigurant une humanité en lien avec son environnement et attentive aux murmures des philosophes, nous laisse envisager une vie meilleure. C'était Michel A. Bouchard, Éloge de la mouvance, un texte d'Isabelle Beaulieu, paru le 21 octobre 2024 dans Les libraires.
Stéphane Lafleur, Tout ce que sa musique ne dit pas. Un texte de Catherine Genet, paru le 10 juin 2025 dans Les libraires. L'auteur et interprète des chansons d'Avec pas de casque ajoute une corde à son arc. Après avoir tourné autour pendant longtemps, le voilà qui se risque enfin à la poésie. Son premier recueil s'intitule Poudre à danser. Stéphane Lafleur est un artiste complet, multifacette. Qu'il écrive les paroles des pièces qu'il chante, La journée qui s'en vient est flambant neuve, la préférée de bien du monde, ou les scénarios des films qu'il réalise, comme Tu dors, Nicole, il se distingue par sa douce mélancolie, son humour subtil et sa manière de célébrer notre parlure. L'œuvre de Lafleur charrie en elle un bout du Québec passé et présent. Elle parle de nous. Et les mots en sont la pierre angulaire. C'est Loi de Cravant, la maison d'édition montréalaise fondée par Benoît Chaput, qui s'est portée acquéreuse de sa collection de poèmes. En ajoutant sa publication, Poudre à danser, au catalogue, l'homme de cinéma et de musique rejoint Camille Riedman Prudhomme, autrice du best-seller « Quand je ne dis rien, je pense encore ». Un assemblage qu'il a dégusté comme au moins 15 000 autres personnes. Ce que j'ai aimé, c'est la simplicité du dialogue que Camille entretient avec le lecteur. Tout le monde se reconnaît. C'est à la fois très simple et très précis. Elle arrive à mettre en mots une intériorité qu'on porte tous. C'est un livre qu'on a envie d'offrir en cadeau. Marie-Andrée Gilles fait aussi partie de ses poètes contemporains favoris. J'aime les gens qui s'amusent, qui s'autorise des ruptures de ton. Tous les livres de Marie-Andrée sont bons, mais je pense d'emblée à Chauffer le dehors, qui est sûrement son plus connu. Elle est capable d'avoir de l'humour et de la gravité dans le même poème, et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Toujours à la peuplade, il ne tarit pas d'éloges à l'égard de Mourons des champs. Pour moi, Marie-Hélène Voyer fricote avec Gaston Miron. Il y a quelque chose chez elle qui est ancré dans le territoire. Finalement, il tient à nommer « Taureau, taureau » de Jean-Christophe Réhel. Il y a quelque chose de ludique dans ce qu'il fait. Et « Sudbury » de Patrice Desbiens. Si « L'homme rapaillé » de Miron est intimidant, et me semble hors de portée, Sudbury propose une trail que je peux emprunter à ma façon. Je me souviens que ça avait laissé une forte impression en moi quand je l'ai lu pour la première fois. Connaître ses classiques. Bien que Stéphane Lafleur se tienne au fait de l'actualité poétique québécoise et franco-ontarienne, des textes en prose se feraient également un chemin sur sa table de chevet. Le premier titre qui lui vient en tête lorsque je lui parle de roman, « L'écume des jours » de Boris Vian. À 17 ans, ça a changé ma vie. C'est comme si quelqu'un avait pointé une porte que je n'avais jamais vue. Tout un monde s'ouvrait à moi. Au Panthéon des géants québécois, il confie avoir découvert Anne Hébert sur le tard. Récemment, les fous de Bassan lui ont fait un fort effet. C'est comme l'une des affaires les plus percutantes que j'ai lues, et avec une langue aiguisée, virtuose. En fait, j'étais contente de ne pas l'avoir lu à l'école secondaire. Je ne pense pas que je l'aurais apprécié à sa juste valeur quand j'étais jeune. Récit cinématographique. Je ne tombe pas des nues quand il me dit que le Cartanier sait, et depuis longtemps, frayer un chemin jusqu'à son cœur. Il en va d'une constance chez les littéraires du Québec et à fort juste titre. J'ai beaucoup aimé la trilogie 1984 d'Éric Plamondon. Hongrie, Hollywood Express, Mayonnaise et Pomme S. Les coïncidences, la concordance des dates, la recherche et les liens qu'il fait dans ces trois romans m'ont impressionné. C'est comme du montage par écrit, en fait. Après tout, Stéphane réalise ses films et monte ceux des autres, dont Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. Déformation professionnelle oblige, il recherche, consciemment ou non, la compagnie d'auteurs et d'autrices qui tissent leurs histoires comme des scénarios. L'un de ses plus récents achats en librairie, Une histoire silencieuse, d'Alexandra Boilard-Lefebvre, un récit familial articulé autour de la grand-mère de l'écrivaine. C'était comme du documentaire écrit. J'ai adoré ça. Dans la même veine, il a pris plaisir à lire l'essayiste pragois Patrick Wednick, sans doute le plus célèbre écrivain à écrire depuis la capitale de la Tchéquie, après Franz Kafka et Milan Kundera. Europeana, c'est un petit livre de rien. C'est juste comme une énumération de faits historiques. C'est comme du montage et il joue beaucoup sur la répétition. C'est très étrange comme livre. Histoire spatiale. Les gens qui connaissent bien le travail de Stéphane Lafleur n'en seront pas si étonnés. La science-fiction tombe dans ses goûts. Après tout, on lui doit « Viking », un long métrage mettant en vedette Steve Laplante, Larissa Corriveau et Fabiola Nirva Aladin, qui donne à voir les coulisses et angles morts de l'exploration spatiale. J'apprécie la science-fiction lorsqu'elle apporte une question philosophique, comme c'est le cas avec « Solaris » de Stanislaw Lem. Le film qu'a fait Andrei Tarkovski est super, mais le livre va plus loin, sans surprise. Quand j'aime un film qui est tiré d'un livre, j'aime comparer les deux et voir comment la transposition s'est faite. C'est aussi par le biais du cinéma, celui des frères Coen, qu'il rencontre Cormac McCarthy. L'écriture du livre « No Country for Old Men » est tellement précise. Le découpage est quasiment déjà fait. Tout est déjà dans le livre, à part la coupe de cheveux de Javier Bardem. Roman graphique. Poudre à danser. Collection de poèmes délicats et minimalistes d'un homme lisiblement amoureux n'est pas exactement la première incursion de Stéphane Lafleur dans le monde du livre. En 2013, il a fait équipe avec Cathy Maury pour la bande dessinée Mon ami Bao, un album qui a vu le jour à La Pastèque. Si je ne lui en avais pas parlé, il ne se serait pas avancé sur ce terrain-là. Non pas par regret, bien au contraire, mais par retenue, une sorte de pudeur. C'était une belle aventure, se contente-t-il de dire, avant d'enchaîner vers d'autres récits portés par des images et des phylactères. J'aime beaucoup ce que fait Catherine Osselo. Il y a une parenté entre l'écume des jours et symptômes. Elle a trouvé un angle différent pour parler des choses. Et la BD, c'est un beau véhicule pour ça. Avec son propos et son dessin, elle maîtrise quelque chose. Pourrait-il un jour être tenté de renouveler l'expérience, celle de la BD avec Catherine Osselo? Je pense qu'elle n'a pas besoin de moi. Stéphane Lafleur semble étranger au « male gaze », à cette façon que certains hommes ont de s'intéresser aux femmes, et rien que pour en faire des objets de désir. L'omniprésence d'écrivaines dans sa sélection en témoigne. Il les perçoit comme ses égales, plus que des muses. Et ça, c'est franchement plus rare qu'il n'y paraît. Surtout chez les musiciens qui ont du succès. C'était Stéphane Lafleur, tout ce que sa musique ne dit pas. Un texte de Catherine Genet, paru le 10 juin 2025 dans Les Libraires.